Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons rencontré Marco Savard. En fait, Marco vit avec la paralysie cérébrale. C'est la cause la plus fréquente d'incapacité physique chez les enfants au Canada. En fait, Marco vient nous parler de son parcours de vie, du secondaire jusqu'à l'âge adulte. Il vient nous parler, en fait, des défis qu'il rencontre, des réussites, de ses accomplissements et, en fait, de ses missions de vie et de ses idées. En fait, Marco est inspirant non par son fauteuil roulant, mais par la personne qu'il est. Et parce qu'il dégage. En fait, avant de vous laisser visionner cet épisode, j'aimerais remercier mes grands partenaires, dont Via 95 FM, la Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamaska, que je parlerai à mi-podcast, et j'aimerais faire un petit coucou à Donald Martel, député de Bécancour Nicolas, et le remercier en fait de m'avoir encouragé dans ce projet. Merci à vous et bon épisode! Bienvenue Marco à Handic Podcast. Hey, Handic Podcast! Handic Caché Podcast saison 1.
Mais merci.
Comment ça va?
Moi, ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Oui! Ben, pour mettre les gens en contexte, dans le fond, on se connaît depuis le fin primaire, je pense.
Fin primaire, c'est ça que ma mémoire me dit.
On s'est perdu de vue environ, tu sais, je dirais vers moi secondaire 4. Toi, tu avais déjà gradué à ce moment-là.
Oui, c'est ça, parce qu'on a à près 12 ans de différence. Donc, oui, j'étais dans la cohorte un peu plus vieux. On ne s'est pas tant côtoyé, échangé dans les salles de classe, tout ça. Ouais. Mais j'ai pris connaissance de ton existence au travers des corridors et
oui,
tout ça.
Oui, ben moi aussi, et en échange, tu sais. Puis, j'en ai appris davantage sur toi dans les podcasts que tu as fait aussi dernièrement. Ah, oui. Ouais. Dans le fond, il y a sexe oral, il y a Entre elle et lui que tu as fait aussi.
Oui.
Puis, dans le fond, juste pour mettre les gens en contexte, des gens qui viennent plus d'ici, du centre du Québec, dans le fond, est-ce que tu peux nous dire c'est qui Marco, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où est-ce que tu viens, un peu nous mettre en contexte de qui t'es toi.
Donc, moi, je suis originaire de l'Estrie, et puis je suis atteint d'une condition de la paralysie cérébrale que j'ai eue... pas techniquement à la naissance, mais à cause d'un virus.
Pour vrai?
La varicelle.
Hein? Mais mon Dieu, j'ai jamais entendu ça, dans le fond.
Parce que, tu sais, il y a différentes formes de paralysie cérébrale. C'est une condition, en fait, mais dépendamment de qu'est-ce qui te met dans cette condition-là, il peut y avoir différents facteurs. C'est souvent dû à la naissance, dû à un manque d'oxygène ou une hémorragie du cerveau qui est incontrôlée lors de l'accouchement. Mais dans mon cas, je suis sorti normalement. J'étais un bébé en bonne santé, tout ça.
Ça a quel âge?
On m'a mis dans une chambre à air parce que j'étais un bébé prématuré. Puis à cette époque-là, il y avait une éclosion de varicelle. Puis j'ai pogné la varicelle à 3 semaines de vie.
Oh non!
Donc la varicelle étant quelque chose de trop agressif pour un immunitaire qui avait...
Un petit bébé.
Un petit bébé, exactement. Fait que j'ai eu une poussée de fièvre qui m'a causé une crise d'épilepsie. Puis des convulsions cérébrales ont causé des saignements. Puis en tout cas, les choses se sont chamboulées ensuite. Mais c'est ça qui a causé ma pronostic de paralysie cérébrale.
OK, mon Dieu. Ouais. Écoute, puis après ça, dans le fond, moi, je t'ai connu, c'est ce qu'on disait un petit peu tantôt, primaire, secondaire.
C'est ça.
Puis, tu sais, moi, j'ai toujours connu, justement, le Marco cool, le Marco souriant, tu sais, qui faisait des saluts à tout le monde, qui s'en allait, tu sais, puis que, je pense que, en tout cas, moi, je le voyais comme ça, tu t'assumais la personne que t'étais. T'étais vraiment une belle personne à voir.
J'étais un petit clown aussi.
Ouais, t'étais un petit clown, là, on va te le dire.
On va te le dire, j'étais un peu talent.
Non, mais, tu sais, je pense que ça faisait de toi ton charme, puis tu te démarquais vraiment, là. Mais, mettons, moi, à cette époque-là, c'était la... Je pense que c'était une des pires périodes de ma vie au niveau de l'acceptation de moi-même.
OK.
J'ai trouvé ça beau, la manière que tu as parlé la dernière fois dans un des podcasts, puis j'ai envie qu'on échange là-dessus. Justement parce qu'on a une expérience un peu différente, tu sais, du secondaire, du primaire. T'as dit, dans un des podcasts, ça m'a résonné, C'est un processus, je pense, acceptation de soi. Puis aujourd'hui, comme on dit, on s'en fout de ce que le monde pense, tu sais, mais on essaie en tout cas. Puis, tu sais, tu as dit dans le fond que, j'essaie de me souvenir exactement tes mots pour pas déformer, mais qu'à une certaine, à un certain moment de ta vie, tu essayais même de te dissocier un peu des autres personnes qui vivaient avec des différences, oui. Tu sais, peut-être plus intellectuelles.
Je m'identifiais pas, justement.
Ouais.
À ce qu'on projette comme image de la personne en situation de handicap.
Oui.
Parce que c'est ça, là, on vient d'énoncer que de l'extérieur, j'avais l'air d'un gars cool qui faisait le clown, tout ça, mais je veux dire, à l'intérieur de tout ça, c'était un peu comme un mécanisme de défense, ou comme en anglais, on dit comme mécanisme, pour justement. Montrer aux gens que je suis capable et tout ça, puis essayer de me convaincre moi que je suis quelqu'un qui est capable de vivre normalement, qui est capable d'être cool et tout ça. Mais ça vient avec son lot d'insécurité là. Fait que j'ai utilisé le clown d'autodérision, l'humour pour masquer un peu ça.
On a comme deux mécanismes différents qu'on a utilisés, un et l'autre, là, dans
exactement,
le fond.
Exactement, c'est ça. Puis je trouvais que ces mécanismes-là, quand ils sont bien utilisés, ben c'est là que c'est formateur parce que ça m'a permis, c'est ça, de côtoyer une pluralité d'individus, de m'ouvrir sur le monde. Je suis quelqu'un d'emblée curieux, j'ai pas de préjugés, je me tenais autant avec les intellectuels que les drogués, que
dans le coin fumeur.
Que les coins, exactement, le coin fumeur ou.
Ouais.
Les
mais t'avais pas de jugement. Skateboard.
Non, j'avais pas de jugement. Puis c'était pour ça, de ce que je comprends, les gens m'appréciaient, c'est ça, beaucoup. Puis,
pour qui t'étais.
Pour qui j'étais exactement,
c'est ça. Ouais. Exact. Puis tu sais, dans le fond, un peu, moi, le secondaire, primaire, tout ça, ça a été difficile. Je sais pas si tu te souviens, moi, j'avais comme une chaise roulante au primaire, mais elle était comme faite genre en poussette. Ouais. Ça te dit-tu quelque chose?
Ouais, quelqu'un devait te pousser, en fait. Tu pouvais même pas te déplacer avec tes bras.
Non, c'était vraiment une forme de poussette, genre, là.
Ouais.
Mais ça avait commencé là, la période, j'avais trouvé ça difficile. Parce que, dans le fond, on nomme pas de nom ici, là, vraiment pas. La personne n'est pas là non plus, puis c'est bien correct. Puis aujourd'hui, bref, c'est passé à autre chose. C'était au niveau de l'acceptation de moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Puis je vais te l'expliquer. Tu sais, on allait tout le temps prendre l'ascenseur, puis on avait un moment où est-ce qu'on attendait nos accompagnateurs, tout ça. Puis une fois, j'étais avec une autre personne qui avait aussi un fauteuil roulant à l'époque. Puis dans le fond, elle était avec une de ses amies pour monter en ascenseur. Puis c'était des moments comme ça qui arrivaient à répétition, que j'étais toute seule. Je me faisais rire de moi, des petits chuchotages dans les oreilles, puis de regarder de haut en bas. Mais tu sais, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ça peut arriver? L'autre personne vit un peu les mêmes choses que moi. Mais je pense que, dans le fond, quand tu as dit dans ton podcast, j'ai essayé un peu de me dissocier du symbole de handicap, mais je pense qu'il y en a même qui ont le besoin, dans des périodes qui ne se sentent pas bien, de se dissocier totalement des personnes qui vivent avec un handicap. Je pense que c'est ça que j'ai vécu à ce moment-là.
Je te dirais que moi, qu'est-ce qui a enclenché ça, c'est qu'à un moment donné, je suis allé dans un camp de jour d'été qui était dans le fond spécialisé pour accueillir des enfants avec des besoins spécialisés, que ce soit des handicaps, de la surdité, mais toutes les formes d'handicap auxquelles on peut penser et tout ça. Puis pour une semaine, j'avais l'âge de 7 ans. J'ai été là. Puis mon constat que j'ai fait arriver là-bas, premièrement, j'étais incapable de communiquer avec les autres jeunes parce que les jeunes étaient soit non-verbales, déficientes intellectuelles. Il n'y avait pas personne avec mon profil, avec mon élocution, avec...
Qui pouvait avoir une conversation avec toi
exactement,
directement.
Je parlais plus, mettons, au moniteur qu'aux jeunes de mon âge. Fait que tu sais, l'image qui t'est peignée après ça est forte, puis tu dis, non, je veux pas avoir l'air de ça, là.
Ouais.
Puis c'est pas nécessairement le problème, c'est pas avoir l'air de ça, c'est comme, je m'identifie pas à ça, puis si les gens, en voyant mon fauteuil, me voient de cette manière-là, moi, je veux pas, là.
Ouais, je comprends.
Donc, après ça, c'est là qu'est venu le Marco, l'ordre, le Marco extraverti, puis tout ça. pour dans le fond me distinguer de ça. Puis tu sais, dans les médias ou dans les films, puis tout ça, il n'y avait pas non plus de représentation.
Dans ce temps-là,
comme aujourd'hui, c'est un peu moins pire, mais avant, il y en avait beaucoup moins, puis c'était surtout des personnes âgées ou des personnes ayant des déficits intellectuels. Fait qu'encore là, le fait d'avoir pas une modèle...
Oui. On peut s'identifier, tu sais, ça fait en sorte qu'on va encore plus un peu cacher cette partie-là de nous, je pense, s'en dissocier, mais ça fait pas partie de nous, notre handicap. On n'est pas ça. On vit avec, tu sais. Puis je pense que c'est un mécanisme de défense à certaines parties de notre vie de vouloir s'en dissocier un peu.
Ouais.
Puis on dirait que moi, je regrette cette phase-là, tu sais, de primaire, secondaire, où j'ai voulu un peu cacher ça. Puis je pense que c'est un petit peu pourquoi j'ai créé Handicap Caché. C'était pour que d'autres personnes aient pu ce sentiment-là de vouloir un peu se reculer. Puis, tu sais, mettons, il y avait des personnes là, un peu avec des déficiences intellectuelles que je prenais le taxi adapté avec eux. Ouais. Puis, tu sais, on dirait que j'avais peur de leur parler. J'avais peur de me faire associer quand je les voyais dans le corridor si je leur parlais devant mes amis, exemple. Mais ça dérange quoi, en fin de compte?
Je suis curieux. Le fait de tout le temps aussi être mis à part des autres, comme être retiré à l'extérieur de la classe avant que la cloche sonne, ou être mis en transport adapté, le fait d'être constamment pas isolé, mais mis comme à l'écart ou se faire comme traiter différemment. Ça aussi, tu dis crime.
C'est plate.
C'est plate ou ça alimente, dans le fond, une certaine. Chez les autres, une certaine curiosité, voire peut-être.
Ouais.
Dans ton cas, tu viens de dire, tu t'es fait rire de toi à quelques reprises. Moi, je n'ai pas vécu nécessairement ça ou. J'en ai pas pris conscience parce que...
C'était peut-être mieux le même.
Moi, j'étais l'ordre puis tout ça, puis le monde me voyait pas nécessairement. Il riait peut-être de moi ou avec moi, je le sais pas.
Ouais.
C'est correct comme ça.
Ouais.
Mais il y a ça aussi, ce genre de traitement à part-là, puis avoir... des accompagnatrices qu'on appelle des TS aussi, qui nous suivent en classe. Oui. Il y a de quoi un peu... comme d'infantisant.
Ouais.
Mais après, je veux dire, alors l'adulte, tu comprends que sont vraiment là
pour t'aider.
À distance, pour t'aider.
Ouais. Ben, moi, honnêtement, je le ressentais vraiment qu'ils étaient là pour nous aider.
Ouais.
Puis, je te dirais que, tu sais, ce sentiment-là, tu sais, de se faire retirer de la classe, faire des exercices, peu importe, là, tu sais, oui, ça l'a accentué un peu le fait que j'étais encore plus vue par la classe, puis j'aimais pas ça. Mais, puis des fois, ça m'apportait même des frustrations sans le vouloir envers les accompagnatrices. Je le disais pas parce que je nommais absolument rien dans ce temps-là. Ouais. Mais je m'ennuie tellement de ces accompagnatrices-là aujourd'hui. Puis il y en a une qu'on connaît très bien, qu'on nommera pas le nom, mais c'était une pelle. Puis si elle nous entend aujourd'hui, j'ai dit j'oublierai jamais parce qu'elle va comprendre.
Ouais.
Mais tu sais, c'est ça, c'est des anges sur deux pattes, nos accompagnatrices.
Tout à fait.
Puis tu sais, je pense qu'on est chanceux de les avoir. Puis quand j'ai vu que j'avais vraiment été étiquetée comme un peu différente, c'est quand j'ai changé d'école secondaire.
Ouais,
okay. À l'autre école secondaire.
À l'école qu'on a fréquentée,
non? Ouais. Non, ça, c'est l'école que j'étais pas bien.
Tu es partie à...
Ouais.
OK.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Okay. Ça, c'est l'école que j'étais pas bien.
Ouais.
Quand je suis partie à l'autre école, j'ai dit, je prends plus ma chaise roulante.
Ouais.
Mes exercices, ça va être d'être normal comme les autres. Il y avait juste quelqu'un qui emmenait mes trucs trop lourds pour moi.
Je comprends.
J'ai voulu vraiment enlever ça. Cette partie-là de ma vie. Puis écoute, j'étais dans un corridor, mettons, j'allais juste en pause, sortir, chercher le quoi dans mon casier. Là, tout le monde me regardait, puis « T'es-tu correct? Ça va-tu? » Tout le monde venait me parler aussitôt que j'avais un moment toute seule, puis les gens, ils étaient vraiment accueillants envers moi. Fait que j'ai vu vraiment un clash de ce que j'avais vécu avant. Je me disais « Mon Dieu, les gens sont-tu brisés ici? » Mais non, tu sais, c'est juste, je pense qu'il y avait une étiquette qui m'était attachée dans le temps.
Il peut avoir une étiquette, puis aussi, dans la ville dans laquelle on a grandi, en tout cas pour moi, ça a souvent été moi qui a ouvert les premières portes par le fait que je fréquente ces établissements, ces institutions-là.
Ouais.
Comme à l'école primaire qu'on était avant, il n'y avait pas d'ascenseur.
Pour vrai?
Puis un, à cause qu'on a poussé, mais que ma mère aussi a poussé pour avoir.
Wow!
Mais tu sais, à chaque étape de ma vie, je me suis retrouvé à avoir des portes fermées, puis là, je fais, bon, on les ouvre-tu, les portes?
Ouais.
Fait que ça demande beaucoup de détermination, puis beaucoup de dévouement, puis beaucoup d'efforts. Calme. D'une part. À l'époque, c'était ma mère qui brisait ces barrières-là. Là, je suis rendu à un âge que
c'est toi.
C'est moi.
Oui,
ouais, tout à fait.
Ouais.
Fait que, écoute, si tu veux entendre une anecdote, je peux dire l'école parce qu'elle n'existe plus, mais le transit.
Oh mon Dieu, oui. Qui était oui.
Avant d'aller à notre école secondaire, ouais. C'était comme.
Je pense que c'était l'école des adultes.
Là, c'est devenu une école pour adultes. Mais avant ça, c'était comme un tremplin. Parce que si t'allais pas en sport-études à notre école secondaire, ben t'allais à cette école-là.
Hein, je savais pas.
Ouais. Puis en tout cas, quand on est venu pour regarder les besoins d'adaptation, parce que contrairement aux primaires, t'es porté à te déplacer souvent de classe pour aller à tes cours puis tout ça. Puis ça, c'était grave, là, la directrice de l'école, qu'on nommera pas.
Non!
Elle a suggéré à mes ergots de, au lieu de faire un bureau adapté, que je rentre en dessous, dans chaque classe, que je traîne mon bureau.
Comme que tu traînes ton...
à l'arrière d'un corridor.
Oh mon Dieu.
Pour se sauver du budget ou je sais pas quoi. Puis là, moi, j'étais pas présent lors de ces conversations-là. Ma mère était là avec les ergots puis avec le comité de direction, tout ça. Il y a personne qui parlait. Puis là, ma mère a dit, est-ce que vous me niaisez?
Non, mais c'est fou, hein? Puis on dirait que pour des gens, tu sais, tout ce qui est accommodement raisonnable, comme ascenseur, peu importe, c'est... On dirait qu'il y en a pour qui pensent que c'est des privilèges, mais c'est des droits. Parce qu'on doit adapter notre quotidien pour toutes les situations. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est des situations vraiment déplorables. J'espère qu'aujourd'hui, en 2025, il y en a de moins en moins. J'espère que ça se reproduit plus, puis qu'il n'y a plus de directrice de ce type-là non plus. Mais c'est ça, tu sais, je pense que, dans le fond, où est-ce que je vais emmener après le secondaire, c'est qu'il y a eu une grosse partie que j'ai eu à travailler sur moi, puis à accepter cette partie-là de moi, puis à accepter que, ben, j'en ai besoin de ma chaise, fait que je vais y aller à l'épicerie avec ma chaise, je vais y aller à Saint-Dit avec ma chaise d'un festival, puis je te vois aller toi aussi, puis, tu sais, à travers tes réseaux, puis je te vois,
tu sais, comme... J'ai fait du quad surfing à tes festivals.
Pardon?
Là. Ben oui.
Pour vrai?
Ouais, ouais.
Ben mon Dieu, que t'es hot! Oh, wow! Et sérieux!
Ça fait longtemps dans les poffettes, mais avec cette chaise-là de 400 livres, me faire monter par
4-5
gars!
Et ton peu pris, juste toi, et ton prix avec ton fauteuil?
Écoute, 4 gars, 4 gros gars avec des muscles, on parle pas, genre, profil beach club.
Genre moi.
Toi, tu
sors, moi, je pense pas que je te porterais avec la chaise, là, mais tu sais. Ouais, peut-être.
Mais non, faire du crowdfunding en festival, écoute, c'est dangereux, mais c'est le fun.
Oh my God.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est un rêve, mais en même temps, j'aurais peur.
Puis une fois, j'en ai fait au Beach Club, puis le propriétaire du Beach Club, Olivier Primo, m'avait vu. Puis il m'a... En fait, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé. Après avoir fait du crowdfunding, je me suis fait inviter par un homme dans les loges VIP en haut, fait qu'ils m'ont monté en haut.
C'est pas vrai.
Rips de volonté, tout ça.
Hey!
Quand je sors de cette loge-là, il y a juste moi pis un lui Primo qui croise contact, pis dans le voir, il me dit « Yo, je t'ai vu faire du crowdsurfing tantôt, t'étais malade. » Pis là, on fait que j'en tout ça, on a pris une photo. Hey! L'équipe du Beach Club a pris une photo, a publié ses réseaux sociaux, pis quand je suis allé au cégep, c'était à l'époque que j'étais au cégep, pis... mon prof de français avait vu ma photo de Sam Hawk quelque part, puis il a décidé de l'encadrer, puis de le mettre dans la salle.
T'es pas sérieux? Hey, c'est bon, ça!
Puis il l'a framé, puis en bas, c'était marqué MOS, mes initiales. MOS is the boss.
Oh my God!
Fait qu'imagine, tu vas dans la salle d'études pour étudier, pour te concentrer, pis là, tu vois un gars en montant
faire du crowdsurfing.
Avec une botte dans les mains, pis écoute, c'était de toute beauté.
Oh, wow! Mais t'es beau à voir là-dedans, justement, ouais. Tu sais, de repousser tes limites personnelles, de, ouais. Tu continues de faire des sports. C'est quoi les sports que tu fais, dans le fond, en ce moment?
Bon. Il va falloir que j'aime plus qu'une main.
Je peux te donner la mienne.
Ouais, c'est ça. Je fais du ski alpin l'hiver, je fais du ski nautique l'été.
Nautique?
Nautique, ouais.
Hein?
Avec la Fondation des sports adaptés, ils ont développé un programme de ski nautique adapté.
Wow!
Que je suis sur une planche assis. Ils mettent comme ils fixent comme un siège sur une planche. Mes pieds sont sur la planche, mais moi je suis sur un siège. Puis il y a comme des side skis sur le côté pour tenir le ballon. Puis on part, là.
C'est malade.
C'est malade, là, pour vrai.
Wow.
Puis, fait que c'est ça, l'été, je fais ça, du ski alpin, l'hiver, avec la même fondation.
OK.
Puis,
Tu fais-tu la natation aussi, je pense que tu me
la
disais tantôt?
natation, ouais, ça, c'est plus dans ma ville, à la piscine municipale, je fais de la natation. Je fais aussi tout ce qui est entraînement de gym, musculature, je fais des squats.
Wow! Ben non!
Ben oui.
Tu fais des squats?
Je fais des squats, ouais.
Oh my god, as-tu des vidéos de ça?
Tu vas pouvoir voir sur mon Instagram, j'en ai des vidéos
Est-ce
de
que c'est
ça.
Marco le roulant, me semble?
Marco.le.roulant.
C'est ça.
Ouais, Marco le roulant,
J'irai voir parce que j'ai manqué ça. Je vais aller voir ça, c'est malade.
ouais, c'est ça. Parce
Oh!
qu'à un moment donné, j'ai fait un plan d'intervention avec des physios puis des ergos au centre de réadaptation. Puis ils m'ont vraiment bâti un programme d'exercice de sorte que je puisse être plus en mesure de faire des manœuvres puis faire des transferts pour être autonome puis tout ça. Puis ça faisait
Wow!
partie de ces
Oh!
entraînements-là.
C'est
Donc,
débile pour vrai, tout ce que tu entreprends puis tout ce que tu
oh.
continues à faire. Puis, dans le fond, je me rappelle que dans un des podcasts, tu as dit qu'en 2024, ton mot, c'était résolution de mémoire.
C'était 2024, c'est réalisation.
Réalisation, c'est ça, OK? Puis là, en 2025, est-ce que tu peux nous annoncer ton mot? Est-ce que tu
Je
l'as?
l'avais, oui, je l'avais annoncé, c'est réseau, hey, le 31 décembre, ou en tout cas en début d'année.
Ouais.
C'est bienveillance.
Oh.
C'est bienveillance parce que je pense qu'en 2025, on a besoin de cette démonstration, cet acte de bienveillance-là. Puis maintenant, me donner matière à me réaliser puis avoir gagné davantage d'autonomie, c'est. Je me sens équipé pour, c'est ça, redonner de ma personne et tout ça.
Ouais.
Puis juste dans le corps qui vient de passer dans l'année, tu sais, je me donne. Là, je vais à ton podcast, mais la semaine
Oui.
passée, mais. La semaine qui vient de passer, je suis allé donner, dans le fond, ma présence à une conférence à l'Université de Sherbrooke pour parler de bien-être puis de santé sexuelle
Wow.
auprès d'étudiants en ergothérapie puis en physiothérapie. Puis avant ça, je suis allé à l'Université de Montréal pour écouter les projets de recherche de maîtrise pour
Wow.
le programme d'architecture.
OK.
Puis, c'était donner mon input, puis tout ça, parce que le thème de cette année de maîtrise, c'est l'accessibilité universelle.
Wow. Wow, c'est vraiment
Puis,
hot.
qu'est-ce que je trouve vraiment cool de voir ces cohortes d'étudiantes-là qui vont devenir des professionnels, puis qui vont agir à titre d'agent de changement pour changer. Des
Les
fois,
mentalités.
les mentalités, les
Ouais.
choses, puis avoir une meilleure compréhension de terrain
Tellement.
que les professionnels de l'époque avec qu'est-ce qu'ils avaient comme outil à
Comme
l'époque.
outil, comme théorie, tu sais, puis tout
Exactement.
ça. OK.
Puis sur le plan de l'architecture, tu sais, parce que l'handicap s'agit d'être plus quelque chose d'environnemental qu'une condition individuelle. C'est-à-dire, c'est. Un handicap, ça se traduit comme une incapacité qui découle d'un manque d'adaptation d'un environnement quelconque.
Ouais.
Puis, en architecture, on a besoin de repenser à la manière que nos endroits
Ah oui.
sont designés, sont
Ouais.
conçus.
Ouais.
Qu'on parle des endroits publics, des unités d'habitation, des.
Ouais.
Puis, on a du chemin à faire parce que là, je viens de m'acheter ma maison.
Hey, j'ai vu ça passer. Je suis en train de
Écoute.
dire félicitations. Je suis tellement. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mon Dieu, sérieusement, là, Tu sais, tu as dit qu'en 2024, c'est ton mot, mais ça continue d'être ton mot quand même, les réalisations, puis tout ce que tu entreprends, c'est débile.
C'est ça. Écoute, je me surprends moi-même, mais vraiment, je suis tombé sur cette occasion-là par la bande parce que ma mère se cherchait d'emblée quelque chose avec son conjoint pour habiter, puis ils étaient en processus de visite et tout ça, puis à un moment donné, ils sont tombés sur cette maison-là qui était un plein pied,
wow,
avec garage, puis pour eux, ils ont eu un coup de cœur, mais ça convenait pas 100% à leurs besoins. Il aurait fallu qu'ils investissent dans des rénos, d'agrandissement et tout ça pour convenir à leurs idéaux. Mais avant de jeter l'offre par la fenêtre, ils se sont dit hey, « pourquoi on ne propose pas ça à Marco? » Parce qu'écoute, c'est un plein pied, il n'y a quasiment pas de contraintes d'habitation,
ouais,
d'adaptation, c'est-à-dire et tout. Ouais. Fait que ils m'ont fait part de l'offre, puis je l'ai évalué, puis j'ai dit hey, « c'est quoi, je vais le prendre parce que les alternatives, c'était pas intéressant pour moi. Okay. » Juste pour mettre en connaissance de cause de l'audience, là, présentement, mais bientôt, je vais plus être chez ma mère, mais j'habitais encore chez ma mère. Puis la question de l'habitation, où est-ce que j'allais habiter, tout ça, c'était très anxiogène parce que il n'y a pas tant de possibilités intéressantes, surtout pour moi qui travaille puis qui a un revenu quand même décent. Souvent, les endroits d'hébergement qui sont pour les personnes à mobilité réduite, c'est des logements subventionnés, fait qu'ils priorisent les clientèles vulnérables.
Fait que si t'as pas un salaire, tu peux pas avoir accès à ça. Dans
ou bien non, je vais pas être en priorité dans les listes puis tout ça. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui voulait encore pas une fois me voir dans un tel hébergement parce que c'est encore mettre les gens en situation de handicap dans des genres de ghetto. Puis je veux pas nécessairement donner l'impression puis de dévaloriser des causes de société qui veulent vraiment faire en sorte que les gens en situation de handicap aient le logement. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais pour moi, encore une fois, de me retrouver dans une place où est-ce que je suis étiqueté, ça me tentait pas trop. Puis il y avait certains endroits aussi à Montréal, mais les listes d'attente, c'était comme des 2-3 ans.
Okay.
Puis
dans le fond, comment tu vas... Est-ce que je comprends que tu vas être toute seule dans cette maison-là? Dans le fond, c'est ta maison à toi, toute seule?
Yes!
Oh my God! Puis comment que tu vas adapter un peu ton quotidien pour les routines, tout ça? C'est quoi les aides, les services que tu peux avoir accès dans
donc, le fond? Mes aides puis mes services à domicile, ils m'ont déjà été débloqués quand j'habitais encore, mais que j'habite encore chez ma mère.
OK.
Parce que ça a été... ça a été quand même un lourd combat de quelques années parce que tant et aussi longtemps que j'habitais avec ma mère et qu'on partage la même adresse résidentielle, mais il la considère comme un proche aidant.
Fait que parce que proche aidant, tu ne pouvais pas avoir accès à ça?
Mais c'est-à-dire que les heures, le nombre d'heures qui m'étaient données en termes de soins et d'assistance à domicile étaient amputées du fait qu'il disait « Mais non, regarde, la mère est là pour... pour subvenir. » Puis, tu sais, ça permet de désengorger le système pour d'autres qui n'ont pas du tout de projet d'art, tout ça. Mais c'est quand même mal réfléchi quand tu y penses parce que moi qui essaye d'atteindre un certain niveau d'autonomie, qui vois ma mère vieillir puis pouvoir s'affranchir aussi du soutien qu'elle m'apporte pour vivre pleinement de ce qu'elle veut tranquillement planifier comme retraite et tout ça. C'est pas viable de penser qu'elle va continuer de me toucher, qu'elle va continuer de m'assister dans mes tâches quotidiennes et tout ça. Fait que, mais tu sais, il n'y a pas de cadre administratif qui encadre cette figure de cas-là. Fait qu'il fallait encore une fois
que tu ouvres une porte encore.
J'ouvre les portes, que je fais valoir ça à mes travailleuses sociales, puis après ça, c'est sujet à se faire présenter à des comités de décision, puis c'est vraiment venir phraser les demandes de sorte que ça passe, mais c'est très ardu comme
procédure.
Comme procédure, puis ça peut... je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te détaches émotionnellement de ça, parce que tu peux pas prendre ça tout personnel, puis à un moment donné, tu sais, il faut que tu fonctionnes, il faut que tu travailles, il faut que tu mènes bien ta vie et tout ça. Fait que l'énergie que ça prend pour constamment justifier ces choses-là, de base, que le commun des mortels n'ont pas nécessairement... en tête de penser à tout ça. Ça peut être lourd par moment, puis je l'admets, c'était très isolatoire comme situation par moment. Puis tu sais, tu peux en parler à tout le monde, mais en même temps, tu veux pas causer de malaise, tu veux pas t'apitoyer sur ton sort. Puis encore là...
En même temps, t'as besoin d'être écouté là-dedans des fois, puis d'être juste écouté, d'être juste compris.
Ouais, mais avec le temps, je me suis... c'est certain que je me suis assagi et que je me suis plus ouvert, mais c'était moins ça à l'époque. Dans la jeune vingtaine, le testostérone, l'orgueil,
je comprends. Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu as accès finalement à ces soins-là? Qu'est-ce que ça a donné, ton combat?
Mais c'est ça, depuis l'été dernier, je me suis vu augmenter, c'est ça, mon nombre de services de manière significative.
Yes!
Puis c'est ça, c'est autant octroyé par des prestataires comme des agents du gouvernement et des agences privées qui viennent pallier le manque de ce que les agents gouvernementaux ne peuvent pas faire faute de flexibilité d'horaire ou faute la complexité des routes et tout ça. Fait que ça a été gagné. Cependant, je ne peux pas prendre pour acquis que ça va rester parce que ils viennent d'annoncer encore une fois que c'est ça, le gouvernement vise à peut-être charger une partie des soins à domicile pour réduire leur charge, leur déficit budgétaire. Puis c'est pas quelque chose que je peux prendre, genre que je peux dire « OK, je me ferme les yeux puis c'est réglé à jamais. »
On s'entend que c'est des besoins de base pour toi que ce soit répondu puis que c'est quand même... Tu sais, je veux dire, les gens qui sont capables de se laver toutes seules, qui sont capables de faire leurs besoins toutes seules, qui sont capables de faire toutes seules, je pense qu'ils n'ont pas la notion de cette importance-là, malheureusement. Puis je te souhaite de tout cœur que ça reste comme ça.
C'est ça. Fait que pour te répondre à la question initiale, c'est ça, moi, je vais juste avoir besoin de changer mon adresse domiciliaire.
OK.
Puis le fait que je reste dans le même territoire de juridiction, ben mes services vont me suivre chez moi, c'est ça. Fait que...
Puis là-dedans, tu me diras si t'es à l'aise ou pas d'en parler, tu sais, mais c'est sûr que ça a dû être une étape quand même confrontante pour toi, tu sais, tu te fais laver par ta mère que t'as toujours connue.
Ouais.
Puis après ça, il y a des préposés, il y a des gens attitrés pour venir... répondre à tes soins, tu sais.
Moi, la première fois que je me suis fait laver par une personne autre que ma mère, j'avais genre 11-12 ans. Puis à 11-12 ans, tu vois un monsieur d'un certain âge. C'est un travailleur, là, aujourd'hui, je le comprends, mais écoute, mets-toi à nu devant un gars d'un certain âge à 11-12 ans. Ça intimide un peu.
Ouais. Puis je pense que n'importe quelle personne encore aujourd'hui, peu importe l'âge, encore plus à 11 ans, là, je me dis...
C'est ça. Puis après ça, bon, tu détaches de ça, puis genre, c'est business as usual à un moment donné. Mais c'est ça que quand t'es pas familier avec la chose, ça peut, genre... choqué un peu.
C'est sûr.
Fait que, tu sais, c'est ça, ça me met dans des dispositions relativement vulnérables.
Ouais.
Puis, encore là, c'est ça, mon chemin vers l'adaptation n'est pas encore terminé, puis probablement ça terminera jamais, c'est constant.
Ouais.
Mais vis-à-vis à la personne... que j'étais à l'adolescence aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de plus assumé tout ça, mais nonobstant, c'était quand même un chemin pas tout le temps rose.
Ouais, puis qu'est-ce que tu conseillerais, dans le fond, aux gens qui s'occupent de personnes qui vivent avec des limitations, comme ceux, exemple, qui viennent pour t'aider à te laver, faire les soins, faire peu importe quel soin, soit thérapeutique ou ménagère?
J'ai pas tant de conseils à donner parce qu'eux autres, ils se font former quand même. Ils ont une formation pour ça. Et puis, vraiment sur l'aspect humain, c'est de considérer puis d'avoir conscience que l'être humain que tu vas servir, ça reste un être humain à part entière. C'est pas.
Tellement.
Faut démédicaliser
Ouais. Les
les personnes
approches.
en situation de handicap de leur contexte clinique, de leur contexte. Ils ont toutes une complexité de vécu, ils ont toutes les mêmes émotions
Ouais.
et tout ça.
Puis je pense que n'importe quel humain devrait toujours garder en tête, exemple, on sait pas les épreuves de la vie, mais tu sais, exemple qu'on a à soigner une personne, ben de soigner l'autre comme qu'on aimerait se faire soigner, d'accompagner l'autre, d'écouter l'autre comme qu'on aimerait se faire écouter, d'aimer l'autre comme qu'on aimerait se faire aimer. Parce qu'on dit souvent, ah, j'aimerais ça que l'autre m'aime comme ça ou fasse tel geste, mais dans le fond, la question est simple. Toi, t'aimerais te faire traiter comment? Tu sais, puis c'est de se rattacher à l'humain avant même tout ce qui est, t'sais, médical, comme tu dis, t'sais, on est toutes à part entière, t'sais, puis
Puis disons, moi, j'en ai vu passer.
ouais.
Puis la première impression reste souvent la plus forte. Fait que ça fait que, c'est avec certains, je me lâche plus que d'autres, je me lâche plus loose que d'autres.
Des jokes.
Mais des gens que c'est ça, toute l'affinité, tout ça, mais. Je me suis retrouvé récemment à dealer avec quelqu'un qui utilisait l'infantilisation.
Oh.
Puis écoute, 26 ans me faire appeler bébé.
Oh, boy.
Mais excuse-moi, c'est que je travaille, je paye mes taxes, je vais d'acheter une maison.
Mon Dieu Seigneur.
Mais.
On s'entend que c'est insultant aussi pour quelqu'un, t'sais, qui mérite pas de se faire infantiliser.
Mais la personne, c'est ça qui a employé ça, tu sais, elle dit, oh, j'appelle mon gars bébé aussi, là, tu sais pas.
OK.
Elle était pas mal intentionnée, elle était juste très maladroite.
Ouais.
Mais j'ai dû quand même faire une intervention, tu sais. Il y a des choses que je laisse passer parce que j'ai ma
Ouais.
journée dans le corps,
Ben oui.
je veux pas tout le temps être confronté. Moi, j'utilise souvent le cadre de la diplomatie, mais là, il fallait que je fasse une intervention ferme, comme quoi qu'elle pouvait pas me parler de la sorte, là. Puis,
Puis t'es
ça.
capable de nommer ça dans le fond quand
Oui,
ça se
oui,
produit?
oui.
Ouais.
Je suis
Ouais.
capable, sans que ça soit en explosion.
Oui, c'est
Sans.
sûr.
Ça reste tout le temps dans la diplomatie parce que je comprends que tu es des professionnels, mais c'est sûr que si, mettons, j'aurais senti ces commentaires, parce que là, on parle d'un acte de maladresse, mais
Ouais.
si ça avait été vraiment. Un acte plutôt de mépris ou quelque chose de bien personnel, ben c'est pas nécessairement avec cette personne-là j'aurais géré ça. Ça aurait été à son supérieur,
Ah
puis là, j'aurais fait
oui. Ouais.
je la veux plus, là. Et.
Ouais. On est tous des humains, tu sais, on fait tout de notre mieux, mais il y a des choses des fois qui dépassent la limite, puis c'est important, comme tu dis, d'aller un peu plus loin,
C'est
d'ouvrir
ça,
d'autres portes.
exactement. C'est pas à cause qu'on reçoit beaucoup qu'on devrait. Ça permet de subir tout, là, tu sais.
Ouais. C'est vrai, j'ai même pas pensé à te demander depuis le début qu'on parle puis qu'on jase, mais tu travailles dans quoi?
Moi, je travaille, écoute, j'ai fait de mon bac en administration des affaires avec une concentration en finance à Bishop,
Oh
so in
my God.
English.
C'est comme toute ma bête noire, tu le
Ouais,
fais.
exactement. Puis là, je
Wow.
travaille pour une compagnie qui œuvre. Dans le service de sous-traitance en informatique, en programmation, en intelligence d'affaires, puis pour les besoins de cette compagnie-là, je conçois des rapports sur la pérennité financière qui vont servir après ça aux grandes dirigeantes de mener à bien des choix au niveau stratégique, au niveau de l'embauche, au niveau des ventes, et tout ça, donc...
Wow! Sérieux, c'est hot.
Ouais,
c'est
ouais,
malade.
Ouais, ouais.
Tout ton parcours de vie, toutes tes réalisations, c'est inspirant dans ta personne, dans qui que
ouais.
t'es, dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, dans toutes les portes que tu continues d'ouvrir, là.
C'est ça, c'est ça. Puis,
ouais.
Tu sais, c'est ça, tu utilises le mot inspirant, mais de la manière que tu emploies, je suis à l'aise avec ça parce que, tu sais, m'appeler inspirant à cause que...
Pas à cause de ton fauteuil.
Pas à cause de mon fauteuil, tu dois pouvoir faire la nuance, là.
Non,
moi,
non.
J'accueille ton compliment de sorte que, en connaissance de cause de qu'est-ce que je fais, tout ça, mais en que matière à inspirer,
ouais.
à inspirer d'autres, mais c'est pas... « Ah, le gars, il est en fauteuil, pis il sort, pis il est dans l'inspirant. »
Non, mais c'est exactement ça, tu sais, c'est... Encore là, c'est pas une étiquette.
Ouais.
Petit moment d'interruption pour vous parler de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. Saviez-vous que Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation Santé BNY, a été invitée à participer à l'émission « Les entrepreneurs » à la télé communautaire de Cogeco? Donc, vous allez pouvoir trouver l'émission sur nous.tv-mauricie. Vous souhaitez mieux connaître la Fondation et son fonctionnement, prenez quelques minutes pour visionner ce reportage et vous verrez que la Fondation est vraiment là pour nous tous, année après année, pour bonifier l'offre de services en santé, créer de la valeur au niveau social et économique sur le territoire. Si vous voulez les encourager à donner un don à la société, allez au www.fondationsantebny.ca. Est-ce que tu veux un peu parler avant d'entrer dans le moment d'impact de justement tes relations, tu sais, puis de tes amis, comment qu'ils te voient, tu sais, puis comment que tu entretiens des liens de longue durée, exemple?
Bien, c'est ça, dans le fond, c'est ça, je suis quelqu'un d'emblée, c'est ça, très social, très curieux, qui s'adonne
ouais.
avec une pluralité de personnalités.
Ouais.
Donc, je suis facile d'approche, je connais beaucoup de monde, mais surprenamment, en termes de. Comme relation d'intime, qu'on parle d'amis, qu'on parle d'amoureux, tout ça, j'en ai pas tant que ça. C'est-à-dire que, puis encore là, ça revient avec le thème d'handicap pour partager, c'est ça, une intimité, c'est ça, avec une personne et tout ça, il faut que tu sois en disposition, puis le fait qu'on vit avec des limites, que ça soit des contraintes pour se rendre à tel lieu, tu sais, je voudrais aller chez un ami, mais il y a des marges, parce que la quasi-totalité des maisons a des marges, ça demande une logistique, puis tu sais, je suis pas tout le temps porté, déjà, je demande beaucoup à la base pour me débrouiller à faire ce que j'ai à faire dans la vie,
ouais.
mais j'ai pas le luxe comme d'être spontané et tout ça. Ça reste que, tu sais, j'ai des amis proches que j'échange avec, puis que je peux avoir du fun, puis tout ça. Je peux avoir des conversations profondes, puis tout ça, mais vivre en intimité avec, c'est ça, une personne, pour moi, souvent, ça a été hors portée, puis
okay.
on peut aborder la question de dating, puis tout ça, ça a été pour moi pas straightforward comme démarche.
Ouais,
là, c'est
ouais.
ça, c'est ça. J'en parlais déjà, c'est ça, beaucoup sur le sexe oral, mais pour faire comme une synthèse à ça, tu sais, les réseaux de rencontres, ça n'a pas nécessairement bien marché pour moi, même si j'avais le meilleur profil, tout ça.
Oui.
Le fauteuil, mais de mon hypothèse puis de ma perception, ben ça émet un signal là, OK, peut-être la personne a des limites, ça peut engendrer bien des questionnements, puis mais comment il va faire ci, comment il va faire ça, c'est plus facile de passer au prochain qu'à
ouais.
l'autre. Là. Ça, c'est ma perception, puis
oui.
ma vision que j'ai de mon expérience propre, mais ça veut pas dire qu'une autre personne, que ça soit traduit... par ça, mais pour moi...
C'est comme ça que tu le vis, dans le fond.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
OK. Puis, dans le fond, j'ai envie de te demander si tu aurais un conseil justement à donner aux gens pour pouvoir peut-être permettre à d'autres de vivre cette proximité-là, cette intimité-là. C'est quoi qui manque à la société? C'est quoi la... Je dirais, il n'y a pas une solution, il doit en avoir plusieurs.
En effet, c'est une question très complexe, puis dans une société qui devient de plus en plus individualiste, puis parce que, tu sais, il y a quelque chose, il y a un constat que j'en fais, c'est que notre génération est aux prises avec, je veux dire, autant que, je veux dire, notre agentivité, notre agency, on en a beaucoup plus que nos parents, genre l'art de s'approprier les choix et tout ça.
Ouais.
Ça fait que, tu sais, une personne, comme moi, vivant avec cette situation d'handicap-là, j'ai pas tant eu recours à cette agentivité-là par le passé. Mes choix d'études, mes choix de carrière, mes choix de vie ont tous été tournés autour de « OK, comment je peux minimiser mes inconforts puis augmenter mon confort parce que... »
Ouais.
Rendu là. Mais est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Puis je suis pas en train de dire que j'ai des regrets, là.
Ouais.
Je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai fait là.
Je comprends.
Mais si c'est ça, je m'écoutais ou ne serait-ce de penser à qu'est-ce que je veux dans la vie, ben, je suis pas capable d'y répondre parce que il est constamment en dissonance avec, je veux dire, la réalité de terrain, puis j'ai pas le choix de considérer cette composante-là.
Ouais.
Puis là, je trouve les mots pour le dire parce que c'est des mots que j'ai acquis dans mon vocabulaire, mais c'est très dur de les faire comprendre puis les verbaliser aux autres alors que les autres, ils ont tous d'autres préoccupations de vie, là, tu sais.
Ouais, ouais. Fait que, qui sont légitimes aussi, mais c'est ça ta réalité à toi,
ouais.
Tes préoccupations à toi, tu sais.
Oui, oui.
Mmh. Mais c'est beau quand même de voir tout ton cheminement et ton processus là-dedans, puis comment que, veux pas, on dirait que t'as une vieille âme, moi j'appelle, là, tu t'es sage dans ce que tu dis.
Ouais.
Puis je pense que une de tes missions de vie, en tout cas de ce que comment je te vois aller ces temps-ci, c'est de sensibiliser les gens, ouais, à certains sujets, normaliser un peu ton quotidien, puis...
Mais c'est apporter une conscience collective parce que j'ai eu une très bonne question quand je suis allé participer à ma conférence à l'Université de Sherbrooke. On me dit, OK, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi on devrait... s'attarder ou s'intéresser à la question du bien-être des gens en situation de handicap.
T'as eu cette question-là?
J'ai eu cette question-là, mais okay, c'était pas posé de manière arrogante. Ou...
OK.
Mais la personne était même mal à l'aise de me la poser, mais je veux dire, c'était une question pure. Puis, tu sais, j'aurais pu mal le prendre, mais je l'ai pas pris parce que je comprenais, dans le fond, l'essence de cette question. Mais à ça, je réponds que pourquoi, dans le fond, qu'il faudrait avoir un intérêt à cause que ça nous concerne tous. Parce que les gens oublient parfois, ils associent l'handicap à, je veux dire, le vieillissement, puis aux personnes âgées, puis tout ça. Mais du jour au lendemain, on peut avoir un accident ou on peut avoir une maladie ou un virus qui nous contraint dans une situation de la chose.
Tellement.
Puis si tu te retrouves là-dedans du jour au lendemain ou sur une période prolongée, tu aimerais savoir que les gens ont un intérêt, la société a un intérêt à s'attarder à, ouais, ces questions de rendre, je veux dire, l'environnement plus accessible, puis tout ça. Fait que quand je me prononce devant des cohortes de professionnels là-dessus, je les amène à être conscientisés de cette réalité-là, puis ça va faire en sorte qu'on va...
C'est totalement vrai.
Ouais.
Totalement vrai, puis tu parlais des relations tantôt aussi, puis tu sais, je le souhaite tellement que tu puisses rencontrer quelqu'un comme j'ai rencontré ici, ouais, à Handicaché Podcast. Il y a un couple qu'on a vu ici. Dans le fond, tu parles justement d'accident, puis c'est tellement vrai, là. On va le voir, c'est Kevin Gamelin, dans le fond.
Okay.
Lui, il a eu un accident de motocross, il est tombé en fauteuil roulant. Il n'est pas tombé en fauteuil roulant, je ne sais pas comment l'exprimer, mais bref, maintenant, il a besoin d'un fauteuil roulant parce que, bref, il est paralysé, je pense, au niveau du tronc. Puis, tu sais, il a réussi à se faire une blonde qui, elle aussi, est venue ici pour sensibiliser les gens à ce sujet-là, puis à pousser les gens à voir au-delà de l'handicap, tout court, du symbole. Puis, elle a dit, moi, j'ai tombé en amour avec ce gars-là, tu sais, par la chimie qu'on avait ensemble, par les échanges, puis tout ça. Fait que moi, je te souhaite tellement de rencontrer des gens qui vont connecter avec ton Marco, le Marco que tu as à l'intérieur de toi, parce que tu mérites d'être connu, tu mérites d'être aimé. Puis, vraiment, là, sincèrement.
Pour me faire aimer, ça, je le ressens beaucoup dans mon entourage, puis par les personnes que je côtoie, tout ça. J'ai pas non plus, je me suis détaché à avoir un idéal aussi de relation. Parce que si je devais choisir un mot pour caractériser, c'est ça, mon cheminement vers l'acceptation, c'est le détachement. Le détachement qui se traduit par une lâcheté, de lâcher ses ambitions, mais un détachement de dire, OK, j'avais ça d'idéaliser, maintenant, la réalité sur le terrain, je me détache de ça, ça veut pas dire que...
C'est un lâcher-prise.
C'est un lâcher-prise, exactement. Exactement. Puis, tu sais, on normalise, c'est ça, les relations, que ça doit vivre en couple, puis tout ça. C'est ça, moi, tu sais, j'ai pas nécessairement d'attachement à une idée spécifique. Moi, dans le fond, je suis juste ouvert aux occasions.
Je suis juste
ouvert aux occasions, puis j'ouvre la porte aux occasions, puis il arrivera ce qui arrivera par le fruit de les gestes, puis des occasions que je me porte à vivre. Fait que...
Oui, puis je pense qu'il faut voir l'amour aussi sur toutes ses formes, là, tu sais. Je veux dire, c'est vaste, l'amour. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut voir chaque petite occasion où est-ce qu'il y a de l'amour, puis la prendre pour soi, puis se donner du bonheur, tu sais. Fait que... Écoute, on est déjà rendu à la quasiment fin de notre entrevue ensemble, On a vraiment beaucoup de chemin à rattraper ensemble, là, mais dans le fond, j'ai une dernière question à te poser.
Oui.
Si tu aurais un mot à associer au terme de la différence, ça serait quoi? Un seul mot, là.
Pas
le droit de tricher. C'est top.
Opportunité.
Peut-être que ça va être ton mot 2026, opportunité.
Parce que ça offre l'opportunité à voir les choses différemment, à sortir de, dans le fond, d'ouvrir la boîte de Pandore, puis ça nous pousse, c'est ça, à utiliser notre richesse cognitive à penser les choses différemment, puis... je sais pas comment, genre, là, je suis mal équipé pour le verbaliser, mais je vais repenser à ça, mais oui, je sais pas si tu comprends mon idée,
parce que la différence, ça nous apporte beaucoup d'autres points de vue, beaucoup d'autres...
Oui, c'est ça, c'est un apport.
Oui, c'est un apport, tu sais.
C'est ça.
Puis je pense que ça nous amène, puis c'est encore une question que je renomme encore aujourd'hui, que j'amène, je me fais souvent demander, toi, exemple, si tu aurais le choix de ne pas vivre sans ta maladie, est-ce que tu le ferais? Puis je réponds non. Avant, j'aurais répondu oui, tu sais, quand j'étais pas bien avec moi-même. Mais aujourd'hui, non, parce que ça fait la personne que je suis. Aujourd'hui, ça l'a fait ma force, ça l'a fait comment j'essaie d'apprécier chaque petit moment de la vie. Ça a forgé quelque chose en moi que je pense que je ne serais pas si je ne l'aurais pas.
Il faut, dans le fond, pour notre propre santé d'esprit puis tout ça, il faut se trouver un sens à nos malchances. Puis des fois, c'est difficile de trouver matière, mais si on ne le fait pas, c'est ça, on a le choix continuer de s'apitoyer sur notre sort, puis
tellement
être dans victimisation, puis subir.
Ou se relever,
ou bien non, se bâtir, se construire autour.
Oui, exact.
Fait que c'est ça que je voulais dire par opportunité, parce que oui, la différence t'amène à vivre des choses qui sont singulières, qui sont pas nécessairement comprises chez les autres, mais ça te donne une occasion de te bâtir, puis de te sentir singulier de tout ça.
Bien, merci, donc, Marco, d'avoir été avec plaisir. Nous. Puis avant que tu quittes, j'aimerais que tu me dises, en fait, j'ai des petits rubans aussi, okay. de sensibilisation. Quel ruban que tu aimerais choisir? Quelle couleur? Puis moi, je vais écrire ton mot pour toi.
Moi je vais aller rose.
Rose. Il y en a pas beaucoup de roses en plus.
Mais j'aime le rose.
Oh, wow. Fait que moi, je vais écrire ton mot dessus. Parfait. Puis tu vas avoir marqué « Handicap caché podcast ».
C'est
je
bon.
Je vais pouvoir te garder avec moi après dans mes souvenirs. Fait que merci à toi de t'être déplacé.
Hey, ça fait plaisir.
Merci à toi de t'être ouvert avec nous. Puis je suis tellement contente de t'avoir revu puis d'avoir pu rejaser. Puis je pense qu'on aurait pris toute l'après-midi si on aurait pu, là.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est encore dû pour un catch-up, là, puis poursuivre la conversation à un autre moment donné.
Ah,
mais ça me fait plaisir.
Vraiment.
Puis encore une fois, merci d'avoir offert ta plateforme pour te parler aujourd'hui des vraies choses.
Merci, Marco, puis merci à tous nos auditeurs.
Yes.
Et si j'apprenais à t'aimer, vaut mieux faire de toi mon allié. Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.